Dominée par sa grande sœur, Elsa se sent seule. En 1915, son père meurt et elle décrit cette mort. Donc Annie-Claude Sauton, toujours dans Fraise des Bois, nous lit le passage sur la mort du père.
Il faisait une chaleur insupportable. De nouvelles chaussures noires la serraient. Ses pieds à la torture trébuchaient sur les petits pavés ronds. Liska, le visage blanc comme ce papier, parlait avec Alec de choses indifférentes. Maman ne pleurait pas non plus, et ce n'est que lorsqu'on se mit à descendre le cercueil dans la fosse que Fraise des Bois l'entendit geindre tout bas et vaciller vers l'avant. Dounia se mit à pleurer à grands cris. On a enterré papa. Liska est partie avec son mari le jour même. Fraise des Bois et maman sont restés à deux. Ça a été le déménagement dans un nouvel appartement. Maman était comme une gosse, elle ne pouvait rien faire, avait peur de tout. Fraise des Bois examinait les papiers, fermait les caisses, engageait les camionneurs. Tout le bric-à-brac accumulé depuis 25 ans engorgeait le petit appartement neuf. Les premiers temps, on mangeait à la cuisine. On dormait dans des fauteuils. Avant de se coucher, on faisait un long trajet en tramway et on se promenait en se tenant par la main autour de la vieille maison. Et la nuit, la tête enfouie sous la couverture, Fraise des Bois reprend ses pensées interrompues dans la journée. Lentement, dans les moindres détails, avec une précision quasi photographique, avec passion, elle se remémore chaque geste, chaque mot de papa, chaud, vivant, des lointains, des drôles. Voilà le lait, voilà l'œuf. Mais pourquoi la côtelette n'y est-elle pas tout entière, Fraise des Bois? Et comme prononcée hier, lourde menace, Fraise des Bois, quand je mourrai, papa est mort. Papa aimé. Papa chaud. Papa est mort. Comment y croire? Dans un instant, on va entendre ça tout. Et il va venir. L'air plein de dignité, agréable. Soigné dans sa mise. Et il lui pincera la joue de ses doigts chauds. La piquera de ses moustaches. Et la nuit, dans la touffeur, sous la couverture, remuant sans bruit les lèvres, Fraise des Bois éclate d'un trop plein d'amour, désormais inutile. Papa. Papa.
Écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. L'émission Vendémiaire de ce 6 octobre 2016 qui sera consacrée à un hommage à Jean Knopf. Nos auditeurs qui suivent nos annonces de programmation sur Internet le savent déjà. Jean, avec qui nous réalisions conjointement avec Maria Berlioz, ici présente aussi aujourd'hui, est décédé le 22 septembre 2016 d'une manière, on peut dire, très rapide. Par rapport, il avait des soucis de santé graves, mais rien ne laissait présager une telle issue aussi rapide. Donc cette émission va être consacrée à lui rendre un hommage, qui a commencé d'ailleurs avec sa voix que vous avez entendue au tout début de d'émission. Je vais rappeler un petit peu ce qu'on a fait ensemble ici. On avait monté un projet autour de la vie et l'œuvre d'Elsa Triolet de janvier 2014 à juillet 2015. On a réalisé ainsi 16 émissions au fil des mois. Et puis après, on a laissé passer un été et le 15 octobre 2015, donc il y a bientôt un an, on avait entamé une nouvelle série sur Aragon qui en quelque sorte prenait la suite celle qu'on avait fait avec Jean Albertini une dizaine d'années plus tôt, et lui aussi ayant eu la très mauvaise idée de disparaître prématurément. On a fait ainsi 6 émissions et aujourd'hui, ce 6 octobre, eh bien, si tout avait bien été, ça aurait dû être la 7e. En fait, donc, ce sera quand même une émission en hommage à Jean, avec en toile de fond, bien sûr, Aragon et Elsa Triolet, puisque c'était ce qui nous réunissait ici. Voilà, je vais donner la parole à Maria. Bonjour Maria.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à présent. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, la place à Jean est toujours là, même si elle est vide, mais on l'imagine toujours comme il était d'habitude, avec tous ses écrits, avec cette force d'exprimer les choses qui intéressaient Aragon et Elsa.
Peut-être pour le situer au-delà de ce qu'on a fait ensemble ici à la radio, tu peux nous faire une rapide biographie de la vie de Jean que nos auditeurs, bien sûr, ne connaissent pas, puisque quand on commence un travail ici avec quelqu'un, on lui demande pas de raconter sa vie en arrivant, mais c'est sûrement le moment maintenant d'évoquer un petit peu tout son parcours.
Alors, Jean, ce qui était important chez lui, c'est que c'était quelqu'un qui avait cette approche d'Aragon et Elsa Triolet, mais en fait, c'était un ancien prof de philosophie, et par ce biais-là, il aimait beaucoup la société, ce qui s'y passait, les gens. C'était quelqu'un qui était très 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 curieux de la nature humaine et il savait dresser un portrait très vite et il essayait toujours de comprendre. Les trois fonctions majeures de Jean étaient de chercher, essayer de comprendre, essayer de transmettre. C'était à la fois le prof, mais c'était aussi l'intellectuel militant qui travaillait sans se lasser. Alors, Jean est parti, à mon avis, trop tôt, et c'est l'avis de tous, évidemment. Il est né le 16 avril 1946. Il aimait dire « je suis quelqu'un de la fin de guerre ». Son père était cadre à la SNCF et comme il avait un travail qui lui demandait de déménager souvent, Jean a pu habiter à la fois Nevers, Saint-Étienne, Dijon, Lyon. Mais c'est surtout Saint-Étienne qui lui laisse une grande empreinte et puis Lyon. C'est sa ville, il disait par accident, je suis né à Dijon, mais j'ai vécu à Lyon. Il était très 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 attaché à l'histoire, à la culture de cette ville, et il avait bien sûr sa vie familiale, puisqu'il avait eu deux enfants, et puis il avait eu sa vie de professeur, puisqu'il enseignait à Dardilly, et puis il y avait toute la partie théâtre, puisque son papa, dès l'âge de 6 ans, l'emmenait toujours par le train à la Comédie Française. C'est un vaste moment pour lui d'approcher le théâtre. D'ailleurs, il a essayé de monter une troupe pendant 2 ans. Mais lorsque j'ai refait là, les cartons avec notre ami Michel Bray, eh bien, 60% de tous ces livres, c'était le théâtre. Il disait que c'est sur cette scène-là que les choses se pensent, se disent et se rencontrent avec le public, c'est-à-dire avec l'autre. Alors, c'est curieux, Jean avait ce sérieux parce que ses parents l'avaient inscrit dans des écoles chez les curés, pourquoi ? On n'en sait rien. Mais vers 68 et même avant, dès la seconde, c'était quelqu'un qui commençait à voir la vie exactement comme elle se présentait, et avec la force de sa jeunesse, il avait envie de voir autre chose, de vivre autre chose, d'amener autre chose dans tout ce qu'il avait appris, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup lu, beaucoup appris. C'était quelqu'un qui était exigeant dans tout. Et en 68, donc, c'était le moment de dire ce qu'il pensait. C'était un homme, évidemment, qui était à gauche. Et il a été militant par la suite, soit par le théâtre, soit parce que il a été président des Amis de la Comté Républicaine, qui est un lieu où on édite des livres, et il y a la fête du livre toutes les années. Et puis, il a été également président des Amis de l'Humanité à Clermont-Ferrand, qui a été la dernière partie de sa vie. Jean était quelqu'un de large dans sa manière de penser. C'était un homme qui faisait grandir les personnes qu'il côtoyait, et nous pourrions en parler longuement. Je passe la parole de nouveau à Jean-Pierre.
Je propose une pause musicale qui sera wagnérienne, bien sûr.
Comme il a vite entre les doigts passé le sable de jeunesse, je suis comme un qui n'a fait que danser sur briques de jeunesse. J'ai gaspillé je ne sais trop comment la saison de ma force. La vie est là qui trouve un autre amant et avec moi divorce. Rien n'est plus amer à qui t'en prends-tu. Plus commun, plus facile de perdre son temps et le temps perdu. Pourquoi t'en souvient-il? Le hasard fait que j'y pense parfois et toujours je m'étonne. Ainsi je fus, ainsi j'ai vécu moi ce printemps monotone. On n'en peut rien compter d'intéressant malgré ces airs baroques. Et je n'ai jamais été qu'un passant embourbé dans l'époque. De loin tout ça paraît aventureux sous l'emblas fématoire. Les nouveaux venus en parlent entre eux, on en fait des histoires. Ou du moins dit-on, vous aurez bien ri entre les draps du drame. Sur cela valait d'y mettre le prix, fût-ce le corps et l'âme. Vous aurez été libre de rêver, libre comme l'injure. Mais vous regardez nos pieds entravés, avoir raison c'est dur. Ne voyez-vous pas, malheureux enfants, que tout ce que nous fûmes se dresse devant vous et vous défend le seuil mauvais des brumes. Ce que nous étions, nous l'avons payé plus qu'on ne l'imagine. Et regardez ceux qui vont foudroyer sans cœur dans leur poitrine. Mais qu'espérait-il et qui ne vint pas? Quels astres, quelles fêtes? De qui croyez-vous ces traces de pas, des hommes ou des bêtes? Ils s'imaginaient d'autres horizons, d'autres airs de musique. Et vous vous plaignez-vous d'avoir raison sur leur métaphysique? Moi j'ai tout donné, que vous sachiez mieux la route qu'il faut prendre. voilà que vous faites l'amour aux cieux et vous couvrez de cendres. Moi j'ai donné toutes mes illusions et ma vie et mes hontes pour vous épargner la dérision de n'être au bout du compte. Que ce qu'à la fin nous aurons été à chérir notre mal, le papier jauni des lettres jetées au grenier dans la main.
C'est du Sable de jeunesse, Louis Aragon, Leonardi pour la musique, interprétation de Jacques Douai. Vous l'avez compris, notre émission ne sera pas une émission empreinte de beaucoup de gaieté, puisqu'il s'agit de rendre hommage à Jean Knauve, disparu il y a à peine deux semaines, le 22 septembre 2016. Notre interlocuteur, et grâce à qui nous pouvions réaliser, avec Maria aussi, ces émissions en hommage à Elsa Triolet et Louis Aragon. Pour compléter un petit peu ce que Maria nous a raconté de la vie de Jean, je vous propose qu'elle nous lise le texte que la Société des Amis Louis Aragon Elsa Triolet a publié à l'occasion de son décès à travers son secrétaire général François Échard.
Ainsi Jean nous a été enlevé brutalement, sans qu'aucun signe nous eût alerté. On se demande comment de tels désastres sont encore possibles. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que l'amertume et les larmes. Elles sont les nôtres aujourd'hui. Jean avait rejoint la Salaède dans le sillage d'un autre intellectuel lyonnais, Jean Albertini. Lui aussi trop tôt disparu, sans avoir pu mener aussi loin qu'il eût souhaité son combat pour la cause d'Aragon et d'Elsa Triolet. Il n'était pas facile de reprendre le drapeau que Jean Albertini avait déployé avec orgueil dans toutes les questions dont il s'emparait. Jean Knauve le fit, à sa manière, avec l'élégance d'une apparente nonchalance et surtout une rigueur bien réelle par laquelle il retrouvait Jean Albertini. Très engagé dans le militantisme culturel, il était un homme de terrain, c'est-à-dire quelqu'un qui ne craignait pas d'aller au contact des autres pour expliquer, exposer, communiquer des informations qu'il savait indispensables, car cachées ou déformées. Ce combat contre les déformations paraît maintenant un comportement qui relève de l'utopie ou l'aveu d'une cause perdue. Et pourtant, ce militantisme auquel il s'est donné sans compter est justement la preuve que pour lui, les mots, les idées, avaient toujours leur sens. Ne devait pas plier devant les nouvelles vérités médiatiques, qui n'étaient pas des objets jetables après usage. Jean avait donc sa place au sein de la Société des Amis d'Aragon et Elsa Triolet, qui s'est constituée pour défendre l'héritage progressiste qui nous a été légué. Il devint rapidement membre du conseil d'administration de son bureau, auquel il ne manquait jamais d'assister, auquel il contribuait régulièrement. Comme tous les membres de la direction, il prenait sa part des fardeaux matériels, tenant les stands, portant les cartons de livres, discutant, donnant son temps avec bonne humeur et contentement de le faire. En même temps, il était un contributeur intellectuel précieux, excellent connaisseur des questions de théâtre, capable de redonner aux lecteurs d'aujourd'hui la clé des mises en scène de Villard, Planchon, Chéreau et d'autres, et d'en faire revivre les problématiques comme si elles étaient de notre temps. Dans la mise à jour des enjeux intellectuels et politiques de ce passé, son érudition était certes impeccable et impressionnante, mais de cela il n'avait cure, car ce qui l'intéressait, c'était de contribuer à ce que tous puissent comprendre ce qui s'était alors joué et puissent librement s'orienter. Les œuvres d'Aragon et d'Elsa Triolet, considérées comme exemplaires dans l'implication de la littérature au sein des conflits sociaux, étaient pour lui un élément de fond, jamais perdu de vue. Il portait une attention toute particulière au texte d'Elsa Triolet sur le théâtre, dont il avait entrepris pour les annales l'édition critique des dernières chroniques. Aux côtés de Maria Berlioz, il participait à la série d'émissions de Radio Canu sur Elsa Triolet et à tout ce qui touchait à la connaissance de cet écrivain. Il s'occupait avec passion de la circulation de l'exposition qui retrace sa vie et son œuvre. Pour être plus complet sur les dernières années de Jean, il faudrait aussi évoquer ses engagements politiques, en particulier son rôle dans la création et la vie des Amis de l'Humanité, dans le Puy de Dôme, qui lui permettait de redoubler les interventions sur Aragon. Et puis il y a ce que nous ne savons pas, ces multiples jardins secrets qu'il portait en lui, qui se traduisaient par cette élégance d'être et ce bonheur de vivre qu'il habitait et qu'on percevait immédiatement. Un ami, un camarade s'en est allé trop tôt et nous ne pouvions pas imaginer qu'il en serait ainsi. Il nous a apporté son talent, ses forces, son temps. Il aurait fait partie de cette pléiade des valeureux qui n'acceptent pas le cours des choses. Il nous a fait l'honneur d'être des nôtres pendant toutes ces dernières années. Puissent ces quelques mots atténuer la peine de ses proches, de sa famille, de tous ceux qui l'ont aimé. Je remercie personnellement François Hichard d'avoir eu cette sensibilité, d'avoir si bien compris Jean et de l'avoir si bien décrit aux yeux de tous. Merci.
Voilà, je vous propose maintenant de redonner un peu de vie à cette émission et de retrouver une séquence d'une des émissions. On est parti pour une bonne douzaine de minutes à retrouver Jean bien vivant avec nous.
Et là, on va aborder la dernière partie, le rendez-vous des étrangers. Donc, qui est ce roman qui selon Aragon, et voilà ce qu'il dit, un roman qui touchait au plus blessé du cœur chez Elsa. Le rendez-vous des étrangers, c'est vraiment un livre qui est très actuel, hein, qui serait très important de lire ou de relire aujourd'hui, bien que je suis pas sûr qu'on le trouve toujours en édition courante. Parce que c'est vraiment un livre qui va mêler toute une population, les étrangers, voilà, on peut pas mieux dire. Et selon Aragon, Aragon le situe dans le prolongement du 20e congrès du Parti communiste. Et pour lui, c'est l'illustration même de l'internationalisme prolétarien. Alors de quoi il s'agit dans ce roman ? Bon, l'action se déroule entre le printemps 1953 et l'hiver 1954. Et le thème principal du roman est celui donc de l'étranger en mal d'adoption. Et Elsa va se rencontrer plusieurs personnages. Alors au centre du roman, il y a par exemple Serge Kremen, qui est un Russe, qui est un militant communiste. Donc, il vit en France. Face à lui, on a un ancien ami, d'ailleurs, qui s'appelle Sacha Rosenzweig, qui est également russe, juif, mais qui, lui, est complètement passé de l'autre côté. Il est camelot du roi. Bon. Et puis, on a Antonio, qui est un général de l'armée républicaine espagnole. On a également un Américain, Frank Mosso, qui, lui, est victime du macartisme. D'ailleurs, c'est un personnage qui se suicide dans le roman. On a également un personnage qui a traversé les années, puisque c'était un des personnages principaux du Cheval Blanc, Elisabeth Kruger, qui, elle, est suédoise. Bon. Et puis on a surtout alors le personnage principal qu'on peut référer directement à Elsa, qui est le personnage d'Olga Hiller, qui est une femme qui est Elsa ou ce que voudrait être Elsa, et qui va justement évoquer c'est une grande résistance. Une résistante, c'est une héroïne de la résistance, et on retrouve ce thème qu'on a déjà vu dans les romans précédents. Une fois la guerre terminée, l'héroïne, elle a une vie un peu d'errance, qui où elle a beaucoup de mal à se situer, et de plus, elle est étrangère. Et voilà donc ce qu'elle dit. Elle a plusieurs considérations justement sur le statut de l'étranger dans un pays qui n'est pas le sien.
Je pense que ce qu'elle a ressenti est déjà l'amour que l'étranger peut avoir pour son pays d'adoption est toujours un amour malheureux. Pour s'aimer, il faut être deux. Or, l'indigène ne rend pas son amour à l'étranger. Et elle décrit aussi ce que tu disais tout à l'heure, l'errance, le désarroi ou l'humiliation qu'un étranger peut ressentir lorsqu'il est bien mal accueilli ou tout simplement il vit mal dans la terre d'asile. Quelles que soient les raisons pour lesquelles un homme a quitté sa patrie, politique, économique ou sentimentale, pour l'indigène, il est toujours un personnage sans aveu, douteux, louche, coupable de ne pas être à sa place. Un étranger, une étrangère, c'est toujours au moins étrange.
Et ce thème justement de l'inscription de l'étranger dans une terre qui n'est pas la sienne, on va le retrouver à travers ce que dit Serge Crémen, donc le personnage militant, qui à un moment du roman se rend dans l'est de la France, là où les mineurs polonais sont très nombreux. Et voilà ce qu'il écrit, ce qu'écrit Elsa. Il voulait voir ces mineurs transplantés de Pologne et repiqués dans la terre de France comme des salades. Il voulait voir si elles avaient pris ces salades et s'il allait rencontrer des Polonais ou des Français. Serge savait qu'il y avait des hommes chez qui la transplantation, même à la deuxième génération, laissait des traces indélébiles. Et là, il y a cette perception quand même, je trouve, très forte de justement de cette inscription de cette insertion dans une terre qui n'est pas la sienne voilà. Également un thème qui apparaît très fortement dans le Rendez-vous des étrangers, c'est également le thème de l'antisémitisme qui était mis en sourdine dans les romans précédents et qui va réapparaître notamment dans cette qui va très fortement concerner Elsa Triolet. Et à un moment dans le roman, elle dit que pour elle l'antisémitisme est la forme moderne du cannibalisme. Alors, ce qu'il faut savoir des choses qu'Elsa a vécues très douloureusement, c'est cette exclusion, hein, on en a parlé la dernière fois, enfin, selon Lily Marcou, l'exclusion, Staline refusant qu'elle prenne des responsabilités dans le mouvement de la paix parce que Elsa est d'origine juive. Et justement, elle le renvoie quand elle parle de l'antisémitisme comme une forme moderne du cannibalisme, elle renvoie justement à Staline qui en 1931 avait lui-même employé cette expression en disant que l'antisémitisme était une survivance dangereuse du cannibalisme, antisémitisme dont il se rendra coupable, hein, notamment au moment du procès des blouses blanches. Et Elsa dira à ce moment-là, d'ailleurs, l'antisémitisme du Moyen-Âge dans le pays le plus progressiste du monde. Ça, c'est pour le déplorer. Et on arrive au cœur du roman, qui est justement cette unité des étrangers, de cet internationalisme prolétarien, qui se fait autour d'un chant qui est Grenade. Alors, Grenade, en fait, c'est un poème d'un russe qui s'appelle Mikhaïl Svetlov, qui a écrit ce texte. Et les personnages du roman d'Elsa qui ont été internés en camp pendant la Deuxième Guerre mondiale, se sont unis, se sont retrouvés autour de ce chant. Et ce chant a été mis en musique par Vladimir Kosma.
Non, non, Joseph.
Joseph Kosma. Donc il a été chanté. Alors je crois, hein, Jean-Pierre, que c'est la seule version.
Ah oui, j'en ai pas trouvé d'autres. Il a été passablement oublié depuis. J'ai pas recherché la date de l'enregistrement, mais ça doit être de cette époque-là, hein, l'époque où André Clavaux revenait sur le devant de la scène.
Où oui. Il a dû enregistrer. Oui, parce qu'il y avait eu des passages.
Oui, il avait eu des mauvais passages après la guerre. Ouais. Mais il a réussi à se refaire une santé morale, peut-être justement en chantant des choses comme ça aussi, ça a aidé, quoi.
Mmh. André Clavaux, d'ailleurs, qui, entre parenthèses, était le premier interprète des Yeux d'Elsa, je crois.
Même punition, même motif, je pense.
Oui, d'accord. Alors, le roman d'Elsa, donc, se termine. Ce sont les dernières lignes. Il se termine, je dirais presque comme une chanson, puisque il ouvre sur la chanson qu'on va entendre pour finir l'émission. Et voilà comment il se termine. Et le roman se termine par cette annonce, l'annonce d'une chanson.
Je vous prie d'apprécier cette chanson.
Les paroles sont d'un russe.
La musique d'un hongrois.
Elle est chantée en français
par un espagnol
qui la chante pour un petit italien. Voilà.
On l'écoute.
Et donc, oui, sauf que c'est pas un espagnol qui la chante.
Non.
Comme au trot des chevaux, au galop des combats, la chanson de la pomme s'accrochait à nos pas. Toujours à garder le refrain de ce chant, l'herbe neuve des steppes, mal acquitte des champs. C'est un air différent de parages lointains qu'au travers de sa selle emportait mon copain. L'Ukrainien fredonnait l'air de sa sérénade, Grenade, mes amours, Grenade, ma Grenade. Il la chante par cœur, regardant sa campagne, et d'où vient à ce gars la tristesse d'Espagne. Alexandrovsk-Kharkov, depuis quand sur ce sol, depuis quand chantez-vous des chansons espagnoles? Mon Ukraine, dis-moi, n'est-ce pas dans ce blé qu'un bonnet de ta race autrefois a roulé? D'où te vient, mon ami? D'où te vient ta balade? Grenade, mes amours, Grenade, ma Grenade. Il tardait à répondre, l'Ukrainien rêvait-il. Mon petit, dans un livre, j'ai connu cette ville. Son honneur magnifique, la splendeur de son nom, on appelle Grenade en Espagne un canton. J'ai laissé ma chaumière, me suis fait combattant, pour qu'à Grenade on donne la terre aux paysans.
Au revoir ma famille, au revoir ma bourgade, Grenade mes amours, Grenade ma Grenade. Un cadavre gisait traversé par les balles, c'est l'ami qui jamais ne quittait son cheval. Je regarde le corps sous la lune sereine et les lèvres pâlies qui soufflaient le mot Grenade. Au-delà des nuages, pour ce canton lointain, est parti mon ami emportant son refrain. Et depuis la campagne n'entend plus son aubade, Grenade mes amours, Grenade ma Grenade.
L'escadron n'a pas vu qu'est tombé le soldat et le chant de la pomme jusqu'au bout se chanta.
Rien qu'au ciel, au-dessus du velours du couchant, une larme de pluie a glissé doucement. Mais la vie a trouvé de nouvelles chansons. Finissez de pleurer un refrain, mes garçons. Finissez, 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 camarades, Grenade, mes amours, Grenade. Ma Grenade.
Donc c'était un extrait de l'émission du 2 avril 2015, la 13e émission consacrée à Elsa Triolet, qui se terminait donc par cette chanson, cette rareté, Grenade. Donc nous continuons cette émission en hommage à Jean Knauf, bien sûr, avec Maria qui voulait évoquer quelques autres aspects culturels de la personnalité et des activités de Jean.
Oui. Jean, on pourra en parler longuement parce que il était tellement intéressé par tout ce que la vie présentait. Il était intarissable. Il y avait beaucoup de choses pour lesquelles on pouvait élargir les discussions. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque Jean Albertini nous a quittés, quelqu'un allait faire des recherches, continuer à présenter au public lyonnais et la région toutes les œuvres d'Aragon et d'Elsa Triolet, leur combat. Et Michel Bray me disait, ça sera certainement Jean Knauf. Alors, je ne le connaissais pas assez, Jean Knauf, donc je ne pouvais pas savoir si tout allait se dérouler comme Jean Albertini le faisait. Mais un jour, j'exposais à Bron, à la médiathèque de Bron, une exposition donc qui avait pour titre « État des lieux ». Et à ce moment-là, Jean a été vraiment saisi, impressionné par mon travail. Il en parlait autour de lui. Moi, j'ai été très surprise, très émue, très troublée par le choix des textes qu'il faisait autour des lectures d'Aragon. Et puis il y a eu mon exposition L'Autre. C'est une exposition où je présentais des SDF et je leur donnais la parole. Il était touché parce que ces gens pouvaient penser et exprimer. En fait, tous les deux, nous avions le souci du devenir de notre société et nous cherchions tous les deux dans le théâtre, la littérature, la peinture, dans le cinéma, parfois les chansons populaires comme le rap ou autre, l'alarme que sonnaient les artistes. Ils disaient « le monde vacille et les politiques actuelles ne conviennent pas ». Alors il cherchait, nous cherchions, mais surtout lui, il cherchait des solutions chez les philosophes de tous les temps, une issue qui pouvait être universelle et qui aurait pu correspondre à notre temps. Car, disait-il, un autre monde est possible. Tout cela nous unissait. C'était mon miroir et c'était aussi la personne qui cherchait. Mais avec tout cela, je disais qu'il était intarissable, mais aussi dans son savoir. Figurez-vous qu'il aimait bien sûr les artistes. Il donnait beaucoup, beaucoup d'importance à la science. Il trouvait que cela contribuait à l'émancipation de l'individu. Et c'est vrai, regardez, depuis plusieurs siècles, nous avons quand même avancé, même s'il y a des revers, mais nous avons quand même avancé. Il était très attaché à la langue française et qu'il maniait très bien d'ailleurs. Et il avait une facilité pour les langues étrangères. Alors je commencerai par l'allemand parce que sa famille du côté de son papa était luxembourgeoise. Et d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son papa qui a été résistant et qui a combattu, avant de partir comme ça à la guerre, il avait des problèmes, on l'appelait l'allemand, et c'était très difficile à accepter par Jean. Il voulait d'ailleurs écrire quelque chose là-dessus parce que il avait mal pour son père. Mais il aimait aussi beaucoup l'espagnol, il aimait l'Espagne, il l'a beaucoup visité et il aimait beaucoup ses auteurs. Il a aimé le combat des républicains espagnols. Et puis dernièrement, il se mettait à l'italien, parce que je suis d'origine italienne, et avec une facilité, je trouvais qu'il parlait avec un accent qui m'éblouissait. Et puis surtout, il apprenait correctement sa grammaire, sa conjugaison. En fait, là je plaisante un tout petit peu en parlant de tout ça, mais au fond, Jean, c'était quelqu'un qui nous apportait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de ce côté-là, il va beaucoup nous manquer.
Allez, on le retrouve 3 minutes à évoquer sa rencontre avec Louis Aragon à Lyon.
J'ai ce souvenir, puis c'est le seul souvenir que j'ai d'Aragon, enfin personnel, l'ayant rencontré à la librairie Nouvelle qui était sur les quais de Saône quand il est venu, j'ai retrouvé la date, hein, il est venu en 1980 et non pas comme je me l'étais figuré en 1977 pour ses 80 ans. En fait, j'ai retrouvé une lettre de Jean Albertini qui parle de cette venue et c'est en 1980. Donc c'est quand même déjà un vieil Aragon, et donc on l'avait rencontré. Il y avait eu deux endroits, il y avait eu l'auditorium, et après on s'était retrouvé en plus petit comité à la librairie Nouvelle. Je me souviens, il y avait Jean Albertini qui était là, et donc on avait bavardé quoi avec Aragon, qui répondait aux questions auxquels il voulait bien répondre, hein, parce qu'il avait une surdité à deux niveaux, quoi. Hein. Les sourds ont cet avantage que il y a des choses qui veulent bien entendre, quoi. Et moi, je lui avais posé cette question qui m'a à laquelle je n'arrête pas de penser. Et là, j'ai un peu trouvé une réponse là en préparant cette émission. Je lui avais dit, mais pourquoi vous avez jamais écrit pour le théâtre? Bah bon, il y a des petites scènes comme ça. Il m'a dit, mais le théâtre, c'est plus une affaire d'écrivain, c'est une affaire de metteur en scène. Et ça, je pense que c'est... Et à travers Henri Bataille, qui est peut-être un des derniers, quoi, un des derniers écrivains, c'est sûr que c'est de la littérature, quoi.
De même que Monterland.
De même que Monterland, oui, c'est certain. Mais même Monterland, moi, j'ai une chose que m'a raconté Jean Rista. Jean Rista a travaillé quelque temps à France Culture. Et on l'a envoyé interviewer Monterland. Donc, ils ont pris contact, etc. Et Monterland est arrivé avec les questions et les réponses à lire. ce qui est quand même assez hallucinant, quoi.
Oui, mais il y en a qui ont cette conception des entretiens radiophoniques.
Et Monterland, moi, les rares fois, parce que c'était vraiment pas un homme de médias, moi, les rares fois où je l'ai entendu, il s'est suicidé, je crois, en 72, donc c'était à la fin des années 60. Mais il n'y avait aucune spontanéité, quoi. Chez Aragon, d'ailleurs, non plus. Il faut dire que Aragon, à la radio, c'est quand même assez pontifiant. Mais Monterland, enfin, Rista m'a dit... Enfin, il était sidéré, quoi, cette manière de voir les choses, quoi. Les questions, les réponses. Et il avait tout rédigé, quoi. Et Rista, il a lu les questions que Monterland voulait qu'on lui pose... C'est assez sidérant.
Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. Le jour les fuit, la nuit les craint. Plus pâles que leurs tambourins, leurs lèvres à goût de romarin. La 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 la. Et leurs baisers saignent la mûre. À peine ils frappent la mesure, leur pied a perdu sa chaussure. Dansant déjà comme on gémit, entre les bras de son ami, et déjà la terre en frémit. Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. La voix leur sort, on dirait l'âme, on dirait du fourreau la lame, on dirait du ventre la flamme. La 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 la. Ils ont les yeux de l'Arabie. Ces garçons pareils au pain bis, si prompts à quitter leurs habits. Comme un fleuve sort de ses rives, qu'on les prendrait pour la chaux vive, car l'eau même leur est lascive. Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. Au trouble d'un soir étoilé, vous qui semblez bleu et noir dans le sein des blés. La 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 la. Cruel ivré à qui s'enivre. Rien qu'à vous voir, le cœur se livre, le cœur se meurt à vous voir vivre. La 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 la. Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. La 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 la. Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Alors, tout ça nous amène à l'ultime roman d'Elsa, donc le Rossignol se tait à l'aube, qui va paraître donc en 1970, l'année de son décès. Et ce qu'il y a d'assez saisissant, c'est que Elsa, il y a des témoignages, hein, je crois que c'est au cours d'un repas avec les Segers, hein, ils sont très liés avec Pierre et Colette Segers depuis les années de résistance, Avignon, etc. Villeneuve-les-Avignon. Et le roman sort, et ben, c'est la question traditionnelle, et maintenant qu'est-ce que tu vas faire, quel va être le sujet du prochain, etc. Et Elsa est ferme et catégorique, ben c'est le dernier, quoi. C'est fini, je n'écrirai plus. Elle est également pressée par Aragon. Alors, le Rossignol se tait à l'aube. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, l'action se passe durant une nuit d'été dans une riche propriété où des amis d'une vie, ils sont en tout une dizaine, dont certains ne se sont pas revus depuis de longues années, se trouvent réunis, tous déjà vieux, pour un dîner prolongé jusqu'à l'aube. Tout se passe dans les ténèbres, on n'allume pas comme pour cacher les ravages du temps sur chaque invité. Une seule femme est présente, et cette nuit de souvenirs, de retrouvailles, c'est elle qui la raconte. Cette nuit sera interrompue par des morceaux de rêve de l'héroïne. Et lorsque l'aube arrive et que le Rossignol se tait, elle s'effondre et meurt subitement. Alors Elsa va imposer à l'éditeur, c'est toujours Gallimard, de publier l'ouvrage en deux couleurs d'encre, rouge et noir, une pour le récit et l'autre pour le rêve. Donc il va y avoir cette originalité-là. Alors on retrouve Elsa, l'Elsa réelle. En effet, la maladie de cœur dont elle souffre rend la marche difficile, et le Rossignol se tait à l'aube donne à entendre les souffrances du corps. C'est l'histoire d'une vie à rebours. C'est avant tout la souffrance physique, la vieillesse et la maladie décrite comme Elsa sait le faire.
Le cœur. Elle fouille dans son sac, elle tremble. Un petit comprimé, le temps de le croquer et ça va s'arranger. Ça s'arrange dans un bonheur analgésique. Parfait. Les yeux fermés, elle se laisse glisser sur l'huile des violons, si fatiguée qu'elle souhaite rentrer, se mettre au lit. C'est sa fatigue même qui l'en empêche.
Et dans cette fin de vie, Elsa poursuit son dialogue avec Aragon.
Chaque fois que je te voyais arriver, venir, revenir, la belle surprise. Je t'ai tant attendu tout au long de ma vie.
Tu n'as pas perdu ton temps, mon cœur. Tu en as fait des choses pendant que tu m'attendais.
Non, je ne faisais que t'attendre. J'étais possédée par ton absence et aussi par ta présence. Il ne restait rien de ce que je suis. Si, des restes.
Alors on retrouve dans ce roman, on retrouve la tonalité de la lettre, si vous vous souvenez, la lettre qu'on a lue, cette fameuse lettre qu'elle a écrite à Aragon, et qu'il reproduit dans Blanche ou l'oubli. Cette lettre si terrible, hein, écrite en 1965, et qui, justement, elle qui est l'égérie, la muse, et reprochant Aragon finalement de l'avoir jamais vu, jamais regardé. Et on retrouve cette amertume, hein, de la difficulté, du vivre ensemble et de l'être ensemble. Alors, ben, tout ça nous amène au 16 juin 1970. On va retrouver d'ailleurs, donc Elsa meurt, je crois que c'est vers 17h. Et là, il se trouve que la fin du roman, on est toujours dans Le Rossignol se tait à l'aube, évoque directement la mort d'Elsa.
Il devisait tasse de café en main, se préparant à se séparer, à continuer. Quand il leur arrive du parc un cri comme un long sifflet de locomotive. Une tasse lâchée, la porcelaine en miettes. Quelqu'un l'avait trouvée dans l'herbe, dans la rosée, à la renverse. Ses yeux ouverts les englobaient, tous dans un regard unique, en plein soleil. La nuit était bien finie. Il la voyait, qu'il se voyait. Il voyait tout dans les plus petits détails.
Voilà, il se trouve que le jour même de la sortie du Rossignol, c'était au début janvier 1970, Aragon, ils sont au moulin, Aragon va chercher le courrier, va relever le courrier et il revient triomphant avec le Rossignol dans la main, Gallimard, hein, la collection blanche. Et ce jour-là, à ce moment-là, Elsa fait un malaise grave au moulin et elle s'effondre brusquement. Et de janvier à juin, ça va être plusieurs crises donc qui vont se succéder et s'enchaîner.
De Chopin, que Nocturne opus 9 numéro 2, un extrait que vous entendiez là interprété par Brigitte Engerer. Vous avez entendu donc Jean Knopf et Maria Berlioz parler du Rossignol se tait à l'aube. C'était un extrait de la 16e et dernière émission consacrée à Elsa Triolet le 16 juillet 2016. Auparavant, vous aviez aussi entendu Gérard André qui interprétait une de ses composition sur un texte de Louis Aragon, Ils sont venus avec des fleurs. Pourquoi ce morceau? Ben parce que Gérard André était présent à la cérémonie d'obsèques de Jean Knopf. Il avait fait le voyage et il a interprété Il n'y a pas d'amour heureux, je crois. Non. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je vais demander à Maria si elle a quelques mots encore en conclusion à prononcer.
Conclusion, c'est difficile parce qu'on aimerait que tout ça dure. Alors, avant de se quitter, puisqu'on n'aura plus d'autres émissions, je voudrais remercier les auditeurs qui nous ont accompagnés, aussi bien pour les émissions sur Elsa que Aragon, et qui ont été fidèles. Je voudrais remercier évidemment Jean-Pierre Guinard, de Radio Canu qui a une très grande collection dans les enregistrements et qui ont aidé à faire ces émissions qui seront elles archivées à la Salaette bien sûr. Et puis ma pensée va à Jean, bien sûr, à Jean qui a fait un travail vraiment de fond sur ces deux auteurs qui correspondaient à ses idées et qu'il a essayé de faire partager. Il a essayé d'être clair par le langage. Il disait qu'on pouvait quand même échanger avec le public, avec autrui, avec chaque individu et faire un bout de chemin ensemble. J'espère qu'il a été utile pour cela, pour vous tous. Moi, j'en garderai un souvenir très personnel, mais de travail aussi. Et puis, toutes les conférences que nous avions préparées sur les lectures d'Aragon ou d'Elsa ou d'autres auteurs. Jean, après tout cela, nous allions sûrement boire un Vionni au bistrot lyonnais. Ce ne sera pas le cas, mais tu seras toujours dans ma mémoire. Au revoir.
Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière. D'où viens-tu, mais où vas-tu donc? Demain qu'importe et qu'importe hier, le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Pose ton doigt là sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basse les lampes, la nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu. De son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant, pour ne sentir ta dissemblance, et sur le toit même d'antan, tomber la poussière du temps. C'est long vieillir au bout du compte, le sable enfui entre nos doigts, c'est comme une eau froide qui monte. C'est comme une honte qui croît, un cuir à crier qu'on corroit. C'est long d'être un homme, une chose. C'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous, lentement plier nos genoux. Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi tu es si maigre? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger.
Thank you. Thank you.